Tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme tous les vendredis dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Georges Léonard Sagno et Fred assurent la production de ce programme. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. À l'initiative de Bloomberg Philanthropie et du département du commerce des États-Unis, la deuxième édition du Forum d'affaires États-Unis-Afrique s'est tenue cette semaine à New York, en marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les participants, au rang desquels de nombreux chefs de gouvernement africains et des chefs d'entreprise américains, ont échangé sur les possibilités de commerce et d'investissement sur le continent. Dans le même temps, plus de 1000 délégués officiels provenant des pays éligibles sont réunis ici à Washington dans le cadre de la 15e édition de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, une initiative lancée en 2000 par le président Bill Clinton. Les travaux de cette année sont placés sous le thème « Maximiser l'AGOA maintenant tout en préparant l'avenir au-delà de sa date d'expiration ». Dans l'Amérique et vous ce soir, nous parlons donc des relations d'affaires entre l'Afrique et les États-Unis et leur importance dans le développement du continent. Pour nous accompagner dans cette émission, nous aurons le premier ministre de Sao Tome et Principe, Monsieur Patrice Trovoada. Nous aurons également Tatiana Mosso, journaliste à VOA Afrique. Rachel Ebane a été présidente de la 14e édition de l'AGOA tenue l'année dernière au Gabon. Et bien sûr, Thierry Dongala, qui est contributeur et à Afropolitain Magazine. Madame Rachel Ebane, bonsoir. Madame Rachel Ebane, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Je vous écoute.
Voilà. Merci. Vous avez été président de la 14e édition de l'AGOA, tenue l'année dernière au Gabon. Je veux vous reprendre dans un instant. Le temps pour moi de prendre le Premier ministre Patrice Trovoada. Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Merci de votre disponibilité. On sait que vous êtes entre deux séances de réunion. À l'occasion donc de l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce que vous retenez déjà de votre participation à ce forum d'affaires de New York?
Écoutez, c'est toujours important qu'on puisse discuter, échanger, non seulement avec les entités publiques, mais surtout avec le secteur privé qui est celui qui apportera les solutions à notre gouvernement. Parce que en fait, ce qui crée les emplois sont les entreprises. Il faut savoir ce qu'elles veulent. Et quelles sont les conditions qu'elles souhaitent trouver pour investir. Donc, ce genre de forum est tout à fait important pour nous.
Alors, on sait que Sao Tome et Principe, c'est l'agriculture, c'est le cacao. D'ailleurs, on a surnommé votre pays l'île chocolat. Au-delà du chocolat, du cacao, il me semble également que vous envisagez l'exploitation des hydrocarbures et du tourisme. Qu'en est-il exactement?
Bien, c'est vrai que nous sommes connus un peu pour l'île chocolat, mais surtout pour la qualité du cacao et non la quantité. Donc nous cherchons d'autres sources de revenus. Le tourisme, c'est un secteur sur lequel on compte beaucoup et qui se développe bien. Mais nous n'abandonnons pas la recherche pétrolière et malgré les cours qui sont très bas, les compagnies continuent la recherche et nous espérons aussi bientôt trouver du pétrole. Toujours est-il que le pétrole, uniquement le pétrole, nous a appris qu'il faut diversifier l'économie. Donc le pétrole sera plutôt un bonus et ce n'est pas vraiment, je dirais, la poule aux œufs d'or.
Alors, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, je vais introduire Madame Rachel Ebane, qui a été présidente de la 14e édition de l'AGOA, tenue l'année dernière au Gabon. L'AGOA, cette initiative américaine qui parle aussi et qui promeut les relations d'affaires entre l'Afrique et les États-Unis. Madame Rachel Ebane, vous êtes ici à Washington dans le cadre de la 15e édition de l'AGOA. Est-ce qu'on peut faire un pont entre ces deux événements, celui qui se tient à New York et évidemment celui des DC?
Oui, bonjour monsieur. Bon, je n'étais pas présidente du forum de l'AGOA, mais par contre, j'étais coordonnateur général du comité national mis en place pour l'organiser.
Tout à fait.
Et ensuite, je suis la présidente de la WEP, c'est-à-dire le chapitre gabonais du programme African Women Entrepreneurship Program, qui a été mis en place par Madame Hillary Clinton en 2010, pour permettre donc aux femmes africaines engagées donc dans l'entrepreneuriat de tirer profit de la loi AGOA, qui jusque-là ne concernait que la coopération entre les pays africains et les États-Unis, en cela que les pays africains peuvent donc commercialiser et exporter et commercialiser leurs produits aux États-Unis sans payer des droits de douane ni des taxes pour une liste d'à peu près 7000 produits. Voilà.
Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un programme comme l'AGOA peut être utile à votre pays?
Bon, tout à fait. C'est un programme très intéressant. Toujours est-il que, étant donné que nous sommes 10 000, nous avons le sérieux problème de logistique, ce qui nous ramène aux infrastructures qui permettent de supporter les exportations. C'est un pas intéressant, mais il y a des préliminaires qu'il faut régler, notamment les infrastructures, et financer ces infrastructures à des taux de crédit qui soient concessionnels.
Ah oui, Tatiana Mosso, vous êtes journaliste, vous travaillez pour La Voix de l'Amérique et vous avez couvert pour nous cette conférence de ce forum de New York. De manière générale, qu'est-ce que vous retenez?
Alors, ce qu'on aura retenu, c'est, comme le disait le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, c'est qu'il y avait cette importance que le secteur privé américain puisse échanger avec les chefs d'État. On a vu des plaidoyers, notamment le président ivoirien, le président nigérien encore et d'autres chefs d'État africains qui sont venus faire un vrai plaidoyer pour leur pays parce que, avant tout, il faut que ces investisseurs-là soient rassurés et sachent ce qu'il se fait. Ils connaissent le potentiel de l'Afrique, mais ils le connaissent de loin. Et c'était quel meilleur ambassadeur que les présidents, les ministres eux-mêmes pour venir apporter à ces investisseurs les réponses aux questions auxquelles ils se posent. Et je pense qu'on retiendra surtout les questions d'infrastructure. Il y avait aussi le thème de l'investissement dans l'environnement, dans l'énergie, qui était très important. Mais si vous permettez, j'aurais aimé poser une question à Monsieur le Premier ministre.
Allez-y.
C'est surtout, est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'apport du secteur privé américain est différent des autres apports qui ont été faits jusqu'à présent? On sait que souvent les Européens étaient très présents sur le continent africain, les Chinois sont arrivés en force. Qu'est-ce que les Américains peuvent apporter de différent?
Voilà, Tatiana Mosso me fait savoir que le Premier ministre nous a quittés et doit être en session dans une réunion. Cela dit, je vais plutôt reposer votre question à Jean-Vincent Djenda-Mondon qui nous a rejoint. Jean-Vincent est consultant. Jean-Vincent Djenda-Mondon, hier l'Afrique se tournait vers l'Europe, notamment pour les investissements. Est-ce que la donne est en train de changer, à votre avis?
Bien, bonsoir Jean-Claude. Pour rebondir sur ce que disait la consoeur il y a un instant, il faut dire que l'Afrique ne s'est pas vraiment tournée vers l'Europe. L'Afrique a toujours subi des postulats qui sont définis, sont dictés par l'Europe. Désormais, des postulats qui commencent à être dictés par l'Afrique, par l'Asie, pardon. Il faut dire que la Chine, avec son taux de pénétration, même s'il reste résiduel aujourd'hui, commence à prendre des parts de marché. Et je ne suis pas convaincu pour ma part, que les États-Unis apporteraient quelque chose de nouveau. La Chine est en train de s'installer dans le même schéma que celui qui a toujours été celui de l'Occident, de l'Europe. L'Afrique, en réalité, est une espèce de mine à ciel ouvert où chacun vient se servir. Et je regrette de voir aujourd'hui qu'on applaudisse des deux mains une éventuelle arrivée, une confortation, en tout cas des investissements américains sur le sol africain, parce qu'en réalité, on sait que les retombées, en tout cas pour les peuples africains eux-mêmes, sont très, très, très faibles. Si ça devait être le contraire, je pense que des décennies de collaboration ou des décennies d'efforts bilatéraux entre l'Afrique et l'Occident auraient porté ses fruits. L'Afrique ne serait pas aujourd'hui dans l'état de pauvreté et de misère qu'on constate, Jean-Claude.
Alors, Jean-Vincent Jenda Mondon, merci. Je vais demander à Rachel Ebane. Est-ce que ce que dit M. Mondon, vous partagez cet avis que les investissements, ça ne bénéficie pas aux populations, mais plutôt aux États en tant que tels?
Ok, je ne suis pas d'accord avec ce que dit, pas totalement en tout cas. Ce que je voudrais dire, moi, personnellement, c'est que je ne connais pas d'autres instruments qui aient pu, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, permis de faire la promotion ou l'émergence d'un secteur privé féminin en Afrique grâce à l'AGOA. L'AGOA, donc, je vais vous expliquer quels sont les principes. Nous avons donc créé nos différents chapitres dans à peu près 20 pays aujourd'hui. Je rappelle que l'AGOA, c'est 39 pays africains et le partenaire américain. Donc, il existe plus de 20 chapitres aujourd'hui dans les différents pays d'Afrique subsaharienne et qui constituent donc un vaste réseau de femmes entrepreneurs qui, grâce aux formations que nous offre le département d'État, nous permettent d'accéder à un statut supérieur dans nos différents domaines d'activité. Vous savez, il est simple de parler, mais aujourd'hui, si vos produits n'atteignent pas les standards américains ou les standards internationaux, vous ne pouvez vendre nulle part. Vous ne pouvez pas vendre aux États-Unis, vous ne pouvez pas vendre en Europe, vous ne pouvez pas vendre en Asie. Mais le travail qui est fait, à mon avis, lorsque les Américains nous imposent, par exemple, de faire en sorte que nos produits puissent atteindre ces standards ou ces normes internationales, ils nous permettent d'accéder au marché mondial. Ils nous permettent d'accéder donc à un statut supérieur que nous n'aurions peut-être pas pu atteindre si nous étions restés là à attendre simplement que nos différents gouvernements mettent en place des stratégies pays, par exemple, pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je crois que quelque part, nous y gagnons. Nous y gagnons.
Voilà. On va introduire Thierry Dongala. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez également, préparé à l'US Africa Business Forum à New York. Qu'est-ce que vous retenez?
Ben, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que, bon, il y avait un développement très important, mais un peu ignoré. C'était le fait que USAID a signé un contrat avec une association qui s'appelle NASP, National Association for Security Professionals. En bref, c'est une association des Noirs américains qui sont à Wall Street. Et en fait, cet agrément entre USAID et NASP, c'est pour dire, pour arranger des missions entre les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des pensions américaines, pour aller venir en Afrique et co-investir avec des fonds souverains africains comme les fonds souverains du Sénégal ou l'Angola, dans des projets d'infrastructure. Donc cette fois-ci, on voit vraiment un rapprochement avec les Noirs américains et leur puissance un peu économique pour faire un partenariat avec les fonds africains pour investir dans l'infrastructure. Ça peut être quelque chose de bon qu'il faut surveiller dans les deux ans qui arrivent.
Tatiana Mosso, est-ce que pendant les travaux du forum, on parle beaucoup de la participation des Africains, des chefs de gouvernement et plusieurs participants. Est-ce qu'on a noté la même chose côté américain? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'investisseurs? Est-ce qu'il y a un engouement des Américains à investir en Afrique? Si oui, dans quel secteur?
Alors écoutez, il y a une chose qui est réelle et je rebondirai sur ce que vient de dire votre invité, Monsieur Dongala. Effectivement, les fonds de pension américains ont été très représentés. Il y avait notamment des investisseurs qui comptent vraiment dans la place sur le marché américain qui étaient là, qui ont observé, qui sont venus, comme je le disais, chercher des réponses. Et c'est ça qu'il faut regarder, cette dynamique. Alors, est-ce que c'est, ça peut faire peur que les Américains viennent investir aujourd'hui en Afrique? Mais en même temps, nous sommes dans un monde de mondialisation, de globalisation, et est-ce qu'on doit mettre le continent africain un petit peu de côté? Je pense que non, c'est difficile à dire. Maintenant, c'est, je pense, aux chefs d'État africains de renégocier et d'être peut-être plus vigilants sur la façon dont les contrats sont signés. Il ne faut pas que ce soit uniquement au profit des investisseurs américains, au profit des États-Unis, puisqu'il y a toute une politique quand même américaine de l'économie derrière. Ce ne sont pas que des investisseurs privés. Il faut bien s'entendre là-dessus. Et je pense qu'il faut, il faut laisser cette dynamique se faire, tout en ayant des politiques et des leaders africains vigilants et qui négocient pour le bien de leurs économies, donc pour le bien de leur population.
Alors, Thierry, Jean-Vincent, Tatiana et Rachel, je vous retrouve dans quelques instants. On prend une petite pause.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Pour ceux des auditeurs qui prennent l'écoute de ce programme en ce moment, sachez que vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez l'Amérique et vous. Dans l'Amérique et vous ce soir, nous parlons de relations d'affaires entre l'Afrique et les États-Unis et leur importance pour le développement du continent. Jean-Vincent Jenda Mondon, est-ce que, à votre avis, les investisseurs étrangers peuvent, en tant que tels, développer l'Afrique?
La question est peut-être improprement posée, John. Je voulais rebondir sur deux questions qui me paraissent importantes. Mmh. La première, c'est celle de la montée en gamme. Si on parle de montée en gamme en Afrique, c'est qu'on suppose que l'Afrique produit des matières qui sont exportables. Au-delà des produits, au-delà de l'agroalimentaire et sur lequel les normes sont extrêmement draconiennes par rapport au marché américain en l'occurrence, il y a très peu d'autres domaines. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que personne en Afrique aujourd'hui ne dit non, nous ne voudrions pas des États-Unis. Au contraire. Mais le vrai problème avec les systèmes de coopération qui ont été mis en place jusqu'ici, c'est que pour chaque euro, et ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont disponibles, pour chaque euro qui rentre en Afrique en termes de participation, de contribution à l'aide au développement ou d'investissement, d'apport en investissement étranger, il y a 10 euros qui repartent vers les paradis fiscaux en termes de détournement. Donc il y a un vrai problème d'assainissement derrière, et il y a aussi que l'Amérique aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique en l'occurrence, si ils décident d'investir et d'investir massivement en Afrique dans le sens du développement du continent, ils doivent à leur tour être vigilants pour que l'argent qui est investi aille où il doit aller. Parce que sinon, dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons encore en train de poser les mêmes questions que celles que nous nous posons aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une coopération? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des échanges commerciaux avec des pays qui se sont accomplis industriellement et économiquement, et de continuer quand même à rester un continent relativement pauvre en dépit de toutes les richesses dont il peut regorger? Donc oui, on peut avoir besoin des États-Unis, on a besoin de ce que les États-Unis peuvent apporter en termes d'expertise, en termes de qualité, en termes de montée en gamme, en termes d'investissement tout simplement, investissement infrastructurel, investissement sur la pointe de l'intelligence humaine et même l'intelligence artificielle.
Alors,
mais il faut qu'il y ait des filtres derrière pour permettre que tout cela se fasse en bonne intelligence.
Alors, non seulement en bonne intelligence, mais aussi, Madame Rachel Ebane, est-ce que lorsque vous discutez, vous, avec les organisateurs de l'AGOA, les participants d'autres pays, est-ce que vous évoquez les questions de sécurité, de stabilité ou même de démocratie en Afrique? Parce que, à mon avis, tout cela devrait aller de pair avec le climat des investissements.
Oui, bien sûr, les critères d'éligibilité sont clairs, vous savez, le respect des droits de la personne, des droits de l'homme, la transparence dans les élections, évidemment la mise en place également dans les différents pays membres de l'AGOA d'un climat, d'un cadre des affaires favorable, et évidemment aux investissements étrangers. Mais toutes ces questions sont débattues, mais pour assurer un plan tout à fait pratique, monsieur, il faut que les pays africains commencent par valoriser l'entrepreneuriat féminin. Vous savez, aujourd'hui, nous avons dans la salle 35 femmes africaines venues de 30 pays. Elles ont acquis des outils, elles sont en formation, elles sont là pour une formation AWEP qui a duré 3 semaines. Elles sont entrées dans une sorte d'incubateur, elles ont été checkées dans tous les sens, elles ont eu des formations pratiques et elles ont été transportées dans plusieurs États américains au contact et à la rencontre de femmes qui ont réussi dans le domaine des affaires.
Alors,
monsieur, je ne voudrais pas mener les femmes à la politique, c'est vrai. La politique, elle appartient aux dirigeants. Et je pense que les Américains sont assez clairs sur les conditions d'éligibilité à l'AGOA. Mais lorsque moi je veux vous parler des femmes, je veux vous parler des femmes qui constituent un levier important de développement de nos pays africains, mais qui sont vraiment laissées de côté.
En tout cas,
nous échangeons avec les membres, par exemple, d'AWEP, de Guinée, du Mali et d'autres pays. Elles sont nombreuses ici, mais elles vous diront la même chose pour venir participer à ce forum qui est pourtant important parce que la WEP est indissociable de l'AGOA. Et la WEP est vraiment considérée par les Américains comme, comment dire, un potentiel important pour le développement de nos économies africaines. Mais les femmes ne sont pas souvent, leur travail n'est pas vraiment considéré.
Rachel Ebane.
Je disais qu'elles font peut-être dans le travail artisanal. Oui, ce sont des activités artisanales, mais qui ont leur poids.
Si vous permettez, Rachel, je vais poser la question. D'ailleurs, vous parliez des femmes et politiques en Afrique. Ici aux États-Unis, une femme peut devenir présidente des États-Unis demain. Tatiana Mosso, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que l'Afrique fait correctement son marketing ici aux États-Unis en termes d'investissement et même dans le monde? Est-ce que l'Afrique se vend comme cela se doit?
Alors écoutez, je ne suis pas l'experte. Je pense que M. Dongala saura mieux vous dire parce qu'il est au cœur de tous ces échanges-là tout au long de l'année. Une chose est sûre, c'est que pendant ce forum de 24 heures, très peu, et là je rejoindrai Madame, très peu de femmes étaient présentes dans les plateaux où il y avait des décisionnaires, des leaders. On a vu très peu de chefs d'entreprise féminines venir justement faire ce plaidoyer auquel on a assisté de la part des leaders africains. Il y avait aussi des invités prestigieux comme l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, mais il n'y avait effectivement pas de femmes chefs d'entreprise, pas de femmes à la tête d'une société majeure qui puisse venir elle aussi promouvoir les femmes à la tête de grosses compagnies africaines. Et finalement, je pense que c'est aussi par cet équilibre entre hommes et femmes, cette parité dans la société, dans les sociétés qui peuvent aussi séduire. Et je pense que de ce côté-là, le continent a encore du travail à faire. Et ça passe aussi par la politique. Et d'ailleurs, pendant le forum, plusieurs questions sont revenues, et notamment celle de la politique, de la stabilité politique des pays, des constitutions, des compositions des différentes constitutions, du respect des institutions fortes. Même le président Obama l'a dit pendant son allocution, il a dit, voilà, il ne peut pas y avoir d'économie stable, il ne peut pas y avoir de bonne préparation pour les générations à venir s'il n'y a pas des institutions fortes. Et oui, c'est vrai que cela permettrait aussi aux femmes qui sont aussi impliquées que les hommes dans l'économie de leur pays de pouvoir faire plus de marketing.
On va faire un dernier tour de table. En quelques secondes, Jean-Vincent Djenda Mondon, le mot de la fin.
John, j'avais juste deux petits chiffres à donner. C'est le premier, c'est 70% de l'économie artisanale et informelle en Afrique est portée par les femmes. C'est-à-dire qu'en réalité, le tissu économique en Afrique est essentiellement porté par les femmes.
Georges Léonard Sagnot a assuré la production. Fred l'assistait. John Lyndon était à la présentation. Merci d'avoir suivi et merci à tous nos collègues. Merci à Tatiana Mosso qui m'a aidé à réaliser cette émission.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.